Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 25 juin 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Au Sénégal, une coalition de partis d'opposition a appelé à manifester aujourd'hui pour faire barrage à un projet de loi contre le terrorisme. La série des enlèvements se poursuit au Nigeria. 12 personnes ont été kidnappées aujourd'hui. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba sort de son silence dans une adresse publique à l'Assemblée nationale pour appeler son pays à l'unité. Ici aux États-Unis, verdict attendu aujourd'hui dans le procès du policier blanc qui a tué l'Africain-Américain George Floyd à Minneapolis. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Débat houleux à l'Assemblée nationale sénégalaise. Les députés examinent aujourd'hui de nouvelles propositions de loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, selon le gouvernement. Mais l'opposition juge ces textes liberticides. Abdourahmane Dia.
Les députés doivent voter des textes modifiant le code pénal et le code de procédure pénale pour renforcer la lutte contre le terrorisme, a déclaré à l'AFP le président du groupe parlementaire de la majorité, Aimé Runying. Ces nouveaux textes visent à lutter de manière efficace et sous toutes ses formes contre le terrorisme qui s'est complexifié dans son organisation, a précisé M. Nying. Les députés d'opposition, minoritaires au Parlement, demandent un report des discussions pour mieux étudier les modifications. L'un d'eux, qui a pris la parole à l'hémicycle, a fait état d'un incident entre le député et opposant Ousmane Sonko et un membre de la mouvance présidentielle. La presse qui retransmet les débats en direct fait aussi état de l'arrestation de militants de la société civile qui venaient répondre à l'appel à manifester du mouvement pour la défense de la démocratie. Le MDD est une coalition de partis et d'organisations de la société civile menée par le principal opposant Ousmane Sonko. Ce projet de loi tue notre démocratie parce qu'on va accuser tout contestataire de terrorisme, a déclaré à la presse un de ses responsables.
Au Mali, 15 casques bleus, dont plusieurs soldats allemands, ont été blessés aujourd'hui dans une attaque aux véhicules piégés dans le nord du pays, ont annoncé la MINUSMA et l'armée allemande. L'attaque a visé une base temporaire des casques bleus près du village d'Ishagara, dans la région de Gao, où les djihadistes sont très actifs. Dans l'état de Kaduna au Nigeria, des hommes armés ont enlevé 12 passagers d'un bus et tué une personne à Aon, selon la police. Des sources locales annoncent plus d'une trentaine de personnes enlevées. Nathalie Barge.
Les assaillants sont arrivés en grand nombre avec des armes sophistiquées dans la localité d'Awan, dans le district de Kachia, a rapporté Mohamed Jalig, porte-parole de la police locale. Ils ont tué un résident et en ont enlevé 14, dont 2 ont pu être récupérés par les forces de sécurité qui ont pris en chasse les ravisseurs, a-t-il affirmé. Le chef traditionnel de Kachia, Idriss Souleyman, a fait état de 33 personnes enlevées. Les assaillants ont également pillé des magasins d'alimentation. Depuis une dizaine d'années, des groupes criminels terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales et des voyageurs contre rançon. Ils opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rougou, qui s'étend sur les états de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger.
Au Niger, 19 personnes ont été tuées jeudi lors d'attaques dans la région ouest de Tillabéri. Des élus locaux avaient annoncé un bilan provisoire de 10 à 15 tués dans des attaques menées par des assaillants à moto dans la commune rurale de Tondikiwendi. 15 personnes ont été tuées à Danga Zaouni, dont un chef religieux et 4 autres dans le village voisin de Tolbakwara, a indiqué aujourd'hui un responsable municipal qui a parlé de 2 blessés dans ces 2 villages. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo se rendra dimanche et lundi dans sa région natale de Gagnoa, dans le centre-ouest du pays, après 10 ans d'absence. M. Gbagbo ira d'abord à Blouson, se recueillir sur la tombe de sa mère Marguerite Gado, décédée en 2014 alors qu'il était à la prison de la CPI, qu'il a définitivement acquittée, permettant son retour le 17 juin à Abidjan. Cette première étape, selon le communiqué du comité d'accueil, s'effectuera strictement dans l'intimité familiale et elle sera suivie par des cérémonies publiques à Mama, son village natal. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a réclamé le soutien des députés et sénateurs pour ne pas laisser désagréger l'unité du pays lors de son premier discours devant le Parlement depuis son accident vasculaire cérébral il y a plus de 2 ans. Claire Morin-Gibou.
Président de la République.
C'est le premier discours du président Ali Bongo qui est retransmis en direct par les médias nationaux depuis son AVC en octobre 2018. Le président a évoqué ses objectifs économiques pour le pays.
Il est primordial de diversifier notre économie, de créer davantage de valeur ajoutée localement, de réduire les importations et notre dépendance de l'extraction des matières premières.
Il a également évoqué les choix difficiles qu'il avait à faire sur les mesures strictes mises en place pour lutter contre le Covid-19, dont le couvre-feu très critiqué. Enfin, le président Bongo a appelé à l'unité et à la solidarité. « J'ai besoin de votre soutien et de votre confiance », a-t-il lancé aux députés. Sa longue absence avait fait prospérer toutes les rumeurs. L'opposition et la société civile avaient dénoncé la prise du pouvoir par son directeur de cabinet d'alors, le franco-gabonais Brice Lacruche Alianga, en prison depuis décembre 2019.
Un ancien officier centrafricain détenu en France, proche de l'ex-président François Bozizé, rejette les accusations de torture et de complicité de crimes contre l'humanité dont il fait l'objet, dénonçant des confusions dans l'enquête. Âgé de 42 ans, Éric Damboy-Bagal, qui vit en France depuis mai 2014, a été arrêté à Besançon et mis en examen le 18 septembre. Il s'agit du premier centrafricain à faire l'objet de poursuites du pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour poursuivre les crimes les plus graves à travers le monde dès lors qu'un suspect passe en France. Le président mozambicain Filipe Nyusi a promis d'éradiquer les djihadistes qui sèment la terreur dans le nord-est du pays depuis plus de 3 ans. Avec l'aide militaire des pays d'Afrique australe, le chef d'État s'était jusque-là montré réticent à toute intervention étrangère. Même mercredi, les 16 pays de la SADC réunis à Maputo ont annoncé un accord pour l'envoi prochain de troupes. Ni le nombre d'hommes, ni le calendrier n'ont été annoncés. La Cour de cassation au Maroc a confirmé les peines allant de 10 à 20 ans de prison infligées à un groupe de détenus de l'Irak, mouvement de protestation qui a agité le nord du Maroc en 2016-2017. 8 membres du Irak sont encore incarcérés, dont les leaders du mouvement Nasser Zefzafi et Nabil Amjik, condamnés chacun à 20 ans de prison. La plus haute juridiction du Maroc a rejeté les demandes des prévenus de revoir les peines prononcées à leur encontre, oscillant entre 10 et 20 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La sentence du policier américain Derek Chauvin est très attendue ce soir à Minneapolis, dans le Minnesota. Il a été déjà reconnu coupable du meurtre de l'Africain-américain George Floyd il y a 2 mois. Le point avec Eric Manirakiza.
Quelques heures avant l'audience, quelques badauds se sont réunis devant le tribunal de Minneapolis. Quelques commerces sont restés protégés par des panneaux de bois, mais la métropole du Nord semblait presque revenue à la normale. L'avocat de l'accusé, Eric Nelson, a demandé l'annulation du procès, notamment en raison de doutes sur l'impartialité de certains jurés. Vendredi matin, le juge Cahill a rejeté sa requête, estimant qu'il avait échoué à prouver ses allégations. Le juge Peter Cahill a retenu 4 circonstances aggravantes. Selon lui, le policier a abusé de sa position de confiance et d'autorité, a traité George Floyd avec une grande cruauté, a agi en présence de mineurs et a commis son crime en réunion. Les procureurs ont requis une peine de 30 ans de prison contre l'agent Derek Chauvin. Il sera donc fixé à 18h30 en temps universel, qu'il passera derrière les barreaux pour ce crime qui a bouleversé l'Amérique. Le juge va prononcer la sentence dans un tribunal de Minneapolis. En parallèle, Derek Chauvin et ses 3 collègues qui avaient voulu arrêter la victime devront aussi affronter un procès devant la justice fédérale qui les a inculpés pour violation des droits constitutionnels de George Floyd. Aucune date n'a encore été fixée. Des sénateurs républicains et démocrates ont annoncé jeudi, après des semaines de négociations, avoir conclu un accord de principe sur un projet de réforme de la police. Il restait du travail sur le texte de loi finale, ont-ils précisé.
Près de 160 personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement jeudi d'un immeuble résidentiel de 12 étages, le front de mer près de Miami, en Floride, alors que le bilan provisoire fait état d'au moins 4 morts. Selon la maire du comté de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, 3 autres corps ont été retirés des décombres la nuit dernière. Le président américain Joe Biden a décrété l'état d'urgence en Floride et demandé le déblocage d'une aide fédérale en complément des aides locales. Le président américain Joe Biden reçoit aujourd'hui son homologue afghan Ashraf Ghani pour évoquer l'avenir de l'Afghanistan au moment où le retrait en cours des troupes américaines ouvre une période d'immense incertitude. L'objectif affiché de la Maison-Blanche, travailler étroitement avec le gouvernement de Kaboul pour s'assurer que l'Afghanistan ne redevienne jamais un refuge pour des groupes terroristes qui représentent une menace pour le territoire américain. Voilà pour le journal. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Présent la Minute Éco avec Claire Morin-Gibault.
Au Togo, le cadre législatif et réglementaire des marchés publics va être actualisé, a indiqué le gouvernement hier dans un communiqué. Ce projet de refonte du secteur de passation de marchés publics a pour but de renforcer la transparence et l'efficacité à travers notamment la réduction des délais des procédures, la clarification des cas de recours à la procédure d'entente directe et la réduction du taux de la redevance de régulation. L'Ivoirien et fondateur de l'African Guarantee Fund, Félix Bigpo, a décroché le prix Lifetime Achievement 2021 des African Banker Awards pour l'ensemble de sa carrière. Pendant 30 ans, alors qu'il était directeur général du groupe AGF, Félix Bigpo a contribué énormément au financement des PME en facilitant leurs accès aux garanties. Le Bénin a obtenu un prêt de 105,6 millions de dollars de la Banque islamique de développement pour lutter contre les inondations à Cotonou. Le financement sera utilisé pour installer de nouveaux systèmes de drainage des eaux pluviales, soit 13 km de canaux, tout en réhabilitant 16 km de routes dans la capitale économique béninoise.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura.
Oui, bonsoir à tous. On commence par la Ligue des champions de la CAF. Demi-finale retour de cette Ligue des champions demain samedi à Johannesburg. Les Kaizer Chiefs recevront le Wydad Casablanca à 16h. Victoire 1-0 à l'aller pour les Marocains. Au Caire, Al Ahly affronte à 19h l'Espérance Tunis qu'il avait battu 1-0 au match aller. D'autant que la finale aura lieu le 17 juillet à Casablanca. Au Maroc, les huitièmes de finale de l'Euro de football démarrent demain samedi avec à 18h à Amsterdam, pays de Galles contre Danemark et à 21h à Wembley à Londres, Italie, Autriche. Dimanche à 18h à Budapest en Hongrie, les Pays-Bas affrontent la République tchèque et à 21h à Séville en Espagne, ce choc entre la Belgique et le Portugal. Toujours en Europe, l'UEFA qui accepte désormais de retirer les bouteilles de bière sur le pupitre des joueurs musulmans pendant les conférences de presse de l'Euro s'ils en font la demande. C'est ce qu'a indiqué l'instance vendredi après le geste très commenté de Paul Pogba. La semaine dernière, après France-Allemagne, le champion du monde français, Paul Pogba avait retiré une bière de son pupitre avant de parler à la presse, soulevant une tempête marketing en plein Euro. Et puis pour terminer, basketball, les Los Angeles Clippers ont réduit l'écart dans la finale de la conférence Ouest hier en dominant les Phoenix Suns 106-92 grâce à une seconde partie de match brillante portée par une adresse retrouvée à 3 points. Le retour du meneur des Suns, Chris Paul, après avoir raté les deux premiers matchs de la série pour cause de protocole sanitaire COVID-19, n'a finalement pas donné à Phoenix l'élan suffisant. Les Angelinos ont réussi à rebondir malgré le coup de poignard lors du deuxième match perdu à la dernière seconde sur un dunk du pivot de Phoenix, DeAndre Ayton. L'équipe a su rester concentrée, a expliqué l'arrière Terrence Mann sur la chaîne ESPN. Nous savions qu'il fallait gagner ce troisième match. Les Californiens ne sont plus menés que de 2-1 au soir de cette victoire sur leur parquet qu'ils retrouvaient après 2 défaites initiales en Arizona dans cette demi-finale des playoffs NBA.
Page des sports signée Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'opposition annonce des marches de protestation contre le pouvoir. Elle veut dénoncer l'inaction du gouvernement au regard des nombreuses attaques terroristes auxquelles le pays fait face. L'opposition burkinabé se retire aussi du dialogue politique enclenché depuis quelques semaines. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
L'opposition réunie vendredi annonce des mesures fortes. Elle dit ne plus pouvoir supporter les nombreuses attaques terroristes au Burkina. L'une des mesures est son retrait du dialogue politique.
Notre pays, le Burkina Faso, est en proie à des attaques barbares, injustifiées et de façon répétée depuis 2015. L'heure est grave. L'heure est grave.
Eddy Kombéogo, chef de file de l'opposition.
Au regard de ce qui précède et de l'aggravation de la situation sécuritaire, l'opposition politique annonce dès aujourd'hui qu'elle suspend sa participation au dialogue politique.
Ce n'est pas tout. L'opposition va descendre dans les rues les 3 et 4 juillet prochains pour dire non à l'insécurité. Eddy Kombéogo.
L'opposition politique annonce une série de marches pacifiques et silencieuses dans les 45 provinces à travers tout le territoire national les 3 et 4 juillet 2021. Et ceci pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes.
Dans les rues de Ouagadougou, l'annonce de ces mesures par l'opposition est diversement appréciée.
Oui, je suis d'accord avec l'opposition. Ah, parce que sincèrement, le pays ne va pas. Toutes les zones ne marchent plus.
Je crois bien qu'avec la marche, là, vraiment, eux aussi vont se lever et puis voir pour que ça n'arrive plus, pour qu'il y ait la sécurité sur tous les plans.
Ce n'est pas une question de marche. Ici, il s'agit de la nation. Bien vrai que la marche peut, il y a certaines circonstances que ça aboutit à des, mais dans ce cas-là, ça, selon moi, ça n'aboutira pas à grand-chose, quoi.
Pour les analystes, il était temps que l'opposition sorte et l'attitude de l'opposition est logique. Pazien est juriste et analyste politique.
Les manifestations annoncées par l'opposition actuellement, c'est-à-dire la marche dans les jours à venir, est logique. C'est la suite logique de l'échec du dialogue politique qui a été récemment donc lancé par le président du Faso et qui a été co-présidé par la majorité et l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition a posé des conditions strictes, à savoir donc la démission du Premier ministre, la démission du ministre de la Défense, mais la majorité n'a pas entendu cela de la bonne oreille. Donc cela a été un échec. En pareille circonstance, on pouvait s'attendre à ce que l'opposition développe ses stratégies de terrain justement pour mettre la pression. C'est aussi une stratégie pour alerter l'opinion internationale par rapport à la situation du Burkina Faso.
Pour l'heure, la majorité n'a pas encore réagi. Cela ne saurait tarder, on imagine. Selon l'opposition, je cite, « Jamais le peuple burkinabé n'a été autant endeuillé que lors de ces 5 dernières années. Près de 595 attaques terroristes, plus de 1500 morts, des blessés par milliers, environ 1 500 000 déplacés internes, selon des chiffres de l'opposition. » Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Médecins sans frontières affirme que des dizaines de milliers de personnes dans les régions du nord-ouest du Cameroun sont privées de soins de santé vitaux depuis que les autorités y ont suspendu ses activités en décembre. Le Cameroun accuse cette organisation d'aide médicale d'être trop proche des séparatistes anglophones, ce que dément MSF. Depuis Yaoundé, le reportage de Moki Edwin Kinzeka, rendu par Eric Manirakiza.
Médecins sans frontières indique que plus d'1,4 million de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans les régions anglophones du Cameroun où l'accès aux soins est extrêmement limité. Pour Emmanuel Lampart, coordinateur des opérations de MSF en Afrique centrale, cette situation est due à l'insécurité, au blocage et au ciblage des établissements de santé. Selon lui, la suspension par le gouvernement de son soutien depuis décembre a encore aggravé la situation. La mortalité parmi les groupes vulnérables, dont les femmes et les enfants, est en hausse.
Humanitarian and health needs have surged. Les besoins humanitaires et sanitaires connaissent une augmentation en raison de la violence armée, notamment pour la population et les centaines de milliers de personnes ayant dû fuir leur maison et qui ont des problèmes à accéder aux soins de santé. Concrètement, cela se traduit par des accès de paludisme ou de la diarrhée pour les enfants dans la brousse. Les femmes en couche ne peuvent pas atteindre les structures de santé, les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, les femmes victimes de violences sexuelles, etc.
En 2020, le gouvernement camerounais a accusé Médecins sans frontières d'être trop proche des séparatistes qui mènent une lutte pour créer un État indépendant anglophone dans ce pays majoritairement francophone. Lamparte nie cette accusation et affirme que le seul objectif de son ONG est de sauver des vies.
Répondre aux besoins sanitaires urgents est notre seule et unique préoccupation. Les virus, les balles et les infections ne se soucient pas de savoir de quel côté de la crise on se trouve, et les Médecins sans frontières non plus. C'est notre ADN et c'est l'ADN de l'action médicale humanitaire de principe.
Les responsables camerounais n'ont pas indiqué quand MSF pourrait être autorisé à reprendre ses activités dans les régions anglophones. La semaine dernière, le ministère camerounais de la Santé a indiqué qu'environ 30% des hôpitaux de ces régions ne fonctionnaient plus en raison des attaques séparatistes. Rien que le mois dernier, plusieurs centaines de travailleurs de la santé ont fui les zones de conflits séparatistes, précisent les autorités sanitaires. Philippe Ambe est un agent de santé gouvernementale qui a fui la ville de Bafout dans le nord-ouest du pays dimanche dernier. S'exprimant depuis la ville de Chang, il affirmait que le travail de MSF était professionnel et que les autorités devraient leur permettre de recommencer à sauver des vies.
Le gouvernement n'a pas besoin d'observer le mutisme sur cette question. La situation est très pathétique. Les gens ne peuvent plus vivre dans le confort de leur maison. Les gens ont été kidnappés. Certains sont dans la brousse. La situation va de mal en pis. La seule issue est le dialogue pour que les choses reviennent à la normale.
MSF était l'une des rares organisations à offrir des soins d'urgence gratuits aux populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis 2018. L'ONG indique que les agents de santé communautaire qu'elle a soutenus l'année dernière ont effectué plus de 150 000 consultations pour les communautés des deux régions. Un service d'ambulance gratuit qu'elle a initié a transporté plus d'un millier de femmes en couche vers les hôpitaux. Des violences ont éclaté dans les régions anglophones du Cameroun en 2017 lorsque des enseignants et des avocats ont protesté contre une discrimination présumée de la part de la majorité francophone. L'armée a réagi par la répression et des groupes séparatistes ont pris les armes, affirmant qu'ils protégeaient les civils. Selon l'ONU, 3000 personnes ont depuis été tuées dans la crise anglophone et plus de 750 000 déplacées à l'intérieur du pays et vers le Nigeria voisin.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
À quelques heures du prononcé de la sentence du policier américain Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de l'Africain-américain George Floyd, le juge a rejeté la motion pour un nouveau procès introduite par la défense. La sentence va être prononcée ce soir même. En attendant, quelle est l'ambiance qui règne à Minneapolis? Ruben Joannem, activiste, joint à Minneapolis, ici aux États-Unis.
Pour le moment, c'est calme. Il règne une certaine paix au niveau de la ville. Les activistes, les pacifistes, tout le monde est là. On se croise les bras pour voir est-ce qu'un signe avant-coureur de quelque chose de plus progressif qui va se passer dans le Minnesota.
Il risque entre 12 ans et 30 ans de prison. Quel est votre sentiment dans l'attente de la sentence?
En général, c'est un bon signe. Le fait même d'avoir prouvé Derek Chauvin coupable, c'est déjà un bon pas vers l'avant. Et maintenant, la sentence, généralement, c'est pas mal parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à des mesures trop drastiques. Mais quand même, c'est bon, c'est pas mal comme peine pour montrer une forme de justice, quoi. Et comme c'est une exception à la règle générale, ce qui se faisait dans le Minneapolis, police et dans les villes jumelles, dans le Minnesota en général. Presque jamais on a trouvé, les policiers n'ont jamais été culpabilisés dans quoi que ce soit. Il y a eu une exception à cela, c'est qu'une femme blanche a été abattue par un policier noir et immédiatement le policier a été culpabilisé. Mais dans ce cas, c'est l'inverse. Donc entre 12 et 30 ans, bon, j'anticipe que ça va être du côté minimum, mais en tout cas, c'est pas mal pour la famille Floyd et les noirs en général ici à Minneapolis.
Des sénateurs républicains et démocrates ont annoncé jeudi avoir conclu un accord de principe sur un projet de réforme de la police. C'est une bonne nouvelle pour vous, les activistes.
Tout à fait, tout à fait. Là encore, aura-t-on les résultats escomptés? Là encore, il faut attendre. Mais de toute façon, avec l'administration présente qui est à Washington, le momentum qu'on a avec cette mobilisation à partir de la mort de George Floyd, je pense que la marée en général vers une certaine possibilité de progrès social. Ça va aller jusqu'à quel niveau, jusqu'où où? Là, c'est un peu difficile à établir.
Ruben Joanem, activiste joint à Minneapolis, ici aux États-Unis. L'année dernière, le COVID-19 est venu interrompre le festival de jazz de Saint-Louis pour la première fois en 29 ans d'histoire. Mais cette année, le rendez-vous musical signe son retour sur l'île, célèbre pour son architecture coloniale et ses maisons aux couleurs pastel, apportant une vie bien nécessaire sur le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme nous le relate Arzuma Compaoré, le week-end dernier, on pouvait y entendre des rythmes africains, du funk, du gospel et du blues le long des rues étroites émanant des restaurants, des bars et des hôtels jusqu'au petit matin.
Sur la petite île de Saint-Louis, située au confluent du fleuve Sénégal et de la mer, des centaines d'amateurs de jazz portant des masques sont venus écouter la chanteuse franco-sénégalaise Awali chanter le blues des temps incertains.
Le Saint-Louis Jazz a une très grande réputation. C'est l'un des meilleurs, pas le meilleur, mais l'un des meilleurs festivals de jazz en Afrique et dans le monde. Aussi parce que le top, les meilleurs artistes sont venus ici.
Présenté comme l'un des plus grands festivals de jazz d'Afrique, il est confronté à une baisse de fréquentation depuis l'époque où il accueillait des têtes d'affiche comme le pianiste américain Herbie Hancock, qui s'y est produit en 1996. Mais il attire des amateurs de toute l'Afrique de l'Ouest, d'Europe et est source de fierté pour les artistes de la rue. Fatoumaté a participé au festival.
C'est très important, mais je dois dire que quand même, ça a perdu un peu de son panache et de sa superbe et de son prestige. Là, particulièrement cette année, à cause du Covid.
Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, a été épargné par les impacts les plus meurtriers du Covid-19. Mais le déclin du tourisme et la crise économique ont laissé les habitants dans l'attente d'un coup de pouce que seul le plus grand événement annuel de la ville pourrait leur apporter. Adama Ndaw, musicien de rue.
On pouvait jouer dans les rues, alors on réussissait à récolter un peu de fric et tout ça. Mais là, la dernière année, c'est quand même, on a réussi à au moins créer un podium à l'Institut français.
Les membres du groupe Jam Jazz, originaires de la capitale Dakar, sont tout sourire et jouent le deuxième de ces trois sets, tandis que le public danse ou s'assoit autour des tables surbookées. Mustapha Diop, leader du groupe Jazz Jam.
Pendant la période du festival, il y a beaucoup de monde qui vient, beaucoup de touristes qui viennent et il y a beaucoup de métiers qui en profitent et qui vivent et qui vraiment profitent de ce festival. Les hôtels sont toujours pleins.
À côté de Jam Jazz et d'Awali, d'autres artistes de renom tels que Baba Mal, Vieux Farka Touré ou encore le groupe Missal étaient programmés au grand bonheur des fans.
J'étais soulagée et tout le monde était soulagé aussi. C'était une belle énergie, une belle vibration et un beau lien entre la scène et le public.
La pérennisation et l'animation du Festival international de jazz de Saint-Louis est assurée par une association à but non lucratif qui porte le même nom. Son but principal est l'essor et la promotion d'actions culturelles qui, par ses effets induits, participent au développement économique de la région.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée.